culture serviront de base pour la prédication. Je vous invite à prendre vos Bibles. On va lire Deutéronome 16, 18, 20. Tu établiras des juges et des magistrats dans toutes les villes que l'Éternel ton Dieu te donne, selon tes tribus, et ils jugeront le peuple avec justice. Tu ne porteras pas atteinte à aucun droit, tu n'auras point égard à l'apparence des personnes, et tu ne recevras point de présents, car les présents aveuglent les yeux des sages et corrompent les paroles des justes. Tu suivras ponctuellement la justice, afin que tu vives et que tu possèdes le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Une deuxième lecture dans l'Épître aux Romains, Romains 12, les trois premiers versets. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Et une dernière lecture, dans l'Évangile de Luc, chapitre 4, 4, 14 à 21. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renouée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues, et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Prions. Encore une fois, Père, nous voulons nous remettre devant toi, nous remettre devant ce texte, nous remettre ton serviteur entre tes mains, Seigneur, que ce soit ta parole, ton message qu'il proclame. Mais en toute chose, surtout, par le nom de ton Fils, que ce soit fait pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen.
Voilà, c'est avec une grande joie de me retrouver, je ne sais pas si la deuxième fois, la troisième fois parmi vous, c'est la deuxième fois, voilà, je vieillis. Voilà, donc c'est un moment de joie de se retrouver avec des frères et sœurs le jour du dimanche, ou c'est une autre occasion, pour partager la parole. Je me dis souvent, quand on quitte chez soi pour se rendre à l'église, qu'est-ce qu'on va chercher? Qu'est-ce qu'on va chercher? Et on quitte l'église et comment? Avec quoi? Voilà un moment de vous inviter, en tout cas, à avoir deux dimensions. La première dimension, c'est qu'une parole telle que nous venons de chanter, telle que nous avons lue, le psaume 40 et autres, cette parole puisse nous-mêmes nous édifier et puis nous envoyer aussi à mission. Voilà les deux dimensions que je vous propose, mais aussi, je l'ai dit la première fois que je suis venu ici, assez souvent, on va à l'église et puis on quitte le temple et puis après, on rencontre les gens de la famille ou d'autres qui vous demande « Où est-ce que vous étiez dimanche ?» Vous dites « J'étais à l'église. » Et puis, la personne vous dit « Qu'est-ce que vous avez entendu ce jour-là » on cherche, on a oublié. Hein ? C'est malheureux. Et je voudrais vous inviter à ne pas tomber dans ce piège-là d'oubli. Et pour cela, je voudrais vous faciliter les choses. Et vous faciliter les choses, et pour aider vos mémoires, c'est de vous proposer un thème, et puis de vous proposer aussi un verset. Si jamais vous oubliez tout ce que j'aurais partagé avec vous, retenez ce thème-là, retenez aussi ce verset, ça pourra vous aider justement à retrouver des pièces de ce que nous allons partager maintenant. Et le thème que je vous propose, c'est celui-ci. Tu recherches la justice, rien que la justice, c'est de qui parle. Tu recherches la justice, rien que la justice, ça c'est le thème. Et le verset que je vous propose, c'est le verset 18 de Luc 4. Et c'est Jésus qui parle, qui dit ceci. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint du verbe oindre pour annoncer la bonne nouvelle. La première chose, annoncer la bonne nouvelle pour apporter la guérison à ceux qui ont le cœur brisé pour renvoyer libre les opprimés. Donc, le verset 18 de Luc 4, retenez cela. Et puis le thème. Mes amis, ces paroles que je viens d'annoncer résument en fait le thème de notre prédication. Tu recherches la justice, rien que la justice, c'est à nous à essayer de mesurer. Mesurer une telle responsabilité dans l'Église, rechercher la justice, rien que la justice, mais aussi une telle responsabilité dans ma vie chrétienne. L'auteur de ce livre du Deutéronome précise, mes amis, si vous avez suivi le chapitre 16, précise l'exigence de Dieu. L'exigence que Dieu adresse à son peuple, pas n'importe quelle occasion. C'est au moment où le peuple de Dieu va s'installer dans le pays de la terre promise, ce qu'on appelle le pays du lait. Vous pouvez compléter ? Et du miel, très bien. Dans d'autres termes, c'est le paradis que nous attendons. Ces termes-là de lait et miel ont une signification, une symbolique, c'est-à-dire le pays vraiment où le tout nous est donné de manière tout à fait agréable. Et Dieu dit ceci, « Tu suivras la justice afin que tu vives. » Donc ici, ce verset 20, « Tu suivras la justice afin que tu vives. » Dieu dit à son peuple que la justice devient la condition sine qua non de vivre, mais aussi de posséder ce pays du lait et du miel. Ce thème de justice se résume dans cette prédication de Jésus autour de trois verbes d'action que je vous invite justement à essayer vraiment de mémoriser et de rentrer avec les trois verbes annoncer la bonne nouvelle. Annoncer la bonne nouvelle. Deuxième verbe, apporter la guérison à tous ceux qui ont le cœur brisé. Troisième verbe, renvoyer libre, autrement dit, libérer les opprimés. Trois verbes, annoncer, apporter, renvoyer, libérer. Jésus a prononcé cette prédication, vous l'avez suivi dans la lecture, prononcé cette prédication dans une synagogue. Et la synagogue était le lieu de l'enseignement. Le lieu de l'enseignement, ce qui nous montre l'importance de cette prédication de Jésus. enseigner dans la synagogue. L'enseignement, vous savez, c'est un acte très important. C'est un acte très important. Pourquoi ? Parce que l'enseignement donne la direction à la vie. Hein ? C'est pour ça que nous envoyons nos enfants à l'école. C'est pour ça aussi que, même dans l'Église, nous sommes convoqués justement pour être instruits. Les synagogues se sont développées à un moment bien donné. C'est après la destruction du Temple de Jérusalem, dans l'an 70, après la naissance de Jésus. À ce moment-là, les gens qui étaient dispersés, les gens qui étaient dans le désarroi, avaient besoin d'être fortifiés. Avaient besoin d'être fortifiés parce qu'ils vivaient dans la diaspora. Ils étaient sans espoir. Et le temple, vous savez, a une signification chez les juifs. C'est vraiment la présence de Dieu. Donc, ils étaient malheureux. Et c'est pour cela qu'ils avaient besoin d'être fortifiés, ils avaient besoin d'être consolés, ils avaient besoin d'être, en tout cas, vous voyez les mamans quand vous portez vos enfants, hein? Vous voyez quand un enfant vient de téter, vous la prenez comme ça, vous la, hein? Vous la cajolez, vous lui donnez des bisous, vous... un enfant se sent bien. Donc à ce moment-là, le peuple de Dieu avait besoin de cela. Et cette prédication ne vient pas aussi de nulle part. C'est une prédication qui est tirée de l'Ancien Testament dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 61, le premier verset. Revenons sur nos trois verbes, qui sont les verbes d'action de notre thème. Annoncer la bonne nouvelle, apporter la guérison, renvoyer libre les opprimés, libérer les opprimés. Dans son ADN, Dieu exige de protéger la vie. Dieu exige de protéger la vie parce qu'il y la veut éternelle. Nous sommes en fait vraiment créés pour l'éternité. Et c'est ce que Dieu veut de nous. Je voudrais encore une fois vous inviter à essayer de vous approprier ces trois verbes-là, qui sont les verbes d'action, pendant cette période qui n'est pas n'importe quelle période, la période du carême, mais aussi essayez de vous approprier ces trois verbes dans toute votre vie chrétienne, aujourd'hui et demain et pour l'éternité. Le carême, dont on ne parle pas assez souvent, en tout cas pas assez, chez les protestants, est pourtant très important dans sa signification, dans son sens premier. C'est quoi le carême ? À quoi est destinée cette période-là ? C'est vraiment le moment de nous mettre en relation avec Dieu et c'est le moment d'essayer de renoncer à notre esprit matérialiste, souvent qui nous rend prisonniers. C'est vraiment le moment de prendre le temps de prier en relation directe avec Dieu, comme le psalmiste là le disait. C'est vraiment le moment de se laver, c'est le moment de pratiquer le jeûne, c'est le moment de se mettre à l'écoute de Dieu, mais aussi de notre prochain. Parce que le chrétien, c'est quelqu'un, en fait, qui a deux exercices. L'exercice vertical, écouter Dieu. Et puis l'autre exercice, c'est lequel ? Horizontal, écouter son prochain. Quand tu écoutes Dieu, sans ça, tu as raté le chrétien parfait dont tu vas nous parler. Voilà, mes amis, ce que cette période nous invite à faire. C'est bien le moment de faire silence, le moment vraiment de se quitter, le moment de repentance qui signifie le retour le moment de pardon, le moment de savoir que nous sommes des êtres pardonnés. C'est très important. Le contenu de cette prédication de Jésus concrétise justement la prophétie du prophète Ésaïe sur le ministère du Messie en faveur des gens qui sont en détresse. Et ces gens qui sont en détresse sont souvent cités dans la Bible. Ce sont les pauvres, les abandonnés de tout. Ce sont aussi les opprimés, les gens qu'on écrase, les gens à qui on exerce l'oppression. Ce sont les prisonniers, les gens qui sont privés de leurs droits et autres. En tout cas, tout ce que je viens de vous dire ici, ce sont des symboles que nous avons dans les Écritures qui nous disaient qu'à un certain moment, l'homme est enchaîné. L'homme n'est pas libre. Et Jésus termine sa prédication par des paroles qui doivent nous frapper. Il dit ceci. Aujourd'hui, c'est parce que vous avez complété, hein, le verset 21. Aujourd'hui, hein, vous pouvez compléter ces paroles que vous venez d'entendre. Vous complétez, hein? Vous connaissez votre Bible quand même. Souvent, l'église évangélique doit tenir sa Bible. Hein? Aujourd'hui, ces paroles que vous venez d'entendre ont été accomplies. Hein? Voilà le message. Donc, tout ce que je viens de dire là, de libérer, etc. Aujourd'hui, vous qui êtes dans la synagogue, vous t'obligez aujourd'hui, cette parole est accomplie. En disant cela, Jésus dit quelque chose de fondamental. Jésus montre le sens et la finalité de sa vocation qui doit être celle de l'Église aujourd'hui, qui doit être celle de tout chrétien, libérer les enchaînés, libérer l'homme enchaîné. Ce temps du carême, je le disais, peut, mes amis, vous aider, peut nous aider à comprendre justement le sens des trois verbes. Annoncer la bonne nouvelle, apporter la guérison, troisième verbe, renvoyer libre les opprimés, libérer. Ça peut nous permettre de comprendre, et je voudrais vous inviter à un exercice risqué. Hein? Je ne sais pas si vous saurez le faire, mais en tout cas, au moins, essayez de placer cet exercice dans votre intention, même si vous ne le ferez pas, parce que c'est difficile. Essayez de passer une journée, sans manger. Sans manger. En passant une journée sans manger, mesdames et messieurs, mes frères et sœurs, cela vous permettra de comprendre ce que c'est la faim. Cela vous permettra de comprendre ce que les gens qui n'ont rien vivent. Ça, c'est un exercice que je vous recommande, mais attention, si vous prenez les médicaments, attention, etc., soyez prudents. Je ne vais pas non plus vous inviter à en danger. Un autre exercice, essayez de passer la nuit pendant l'hiver, dehors, sans vêtements. En tout cas, pas couvert tel que vous le faites. Et là, ça vous permettra aussi de comprendre la situation de toutes ces personnes-là qui passent la nuit, qui passent la journée à la gare. Et qui n'ont comme habitation, qui n'ont comme vêtements les cartons. Vous les avez vus. Hein? Je suis sûr que vous les avez vus. Voilà deux exercices que je vous laisse, avec le soin de le faire ou de ne pas le faire. Et cela vous fera comprendre justement quel est le sens de la vie. Le moment de détachement dont je vous parlais, que les trois verbes que j'ai déjà annoncés vous accompagnent pendant cette période du carême, la période qui vous conduira à Pâques, le moment de célébrer la vie, le moment de célébrer la victoire, le moment de revivre, parce que la résurrection, c'est ça. Mais cela demande justement qu'on fasse ce chemin-là. Et être ressuscité de quoi? Parce que vous êtes encore vivant. Hein? Vous ne mourrez pas maintenant. Mais à Pâques, vous allez dire, nous sommes ressuscités avec le Christ. Et quelle est cette résurrection-là? C'est justement essayer d'entrer en soi pour enterrer, pour faire mourir tout ce qui nous sépare de notre Dieu. Et cela va passer par ce mois du carême, justement, de se laisser entraîner dans le visage de Dieu, dans le miroir de Dieu, pour justement revivre. Que ces trois verbes incitent aussi chacun, chacune d'entre vous à se poser cette question. Suis-je libre? Être libre, ce n'est pas uniquement ne pas aller en prison. Pas du tout. Il y a des choses qui nous emprisonnent. Beaucoup de choses. La haine, les divisions, les rancœurs. Tellement de choses. Hein? Des colères à la maison, avec mon épouse, avec mon époux, avec mes enfants. Donc je peux citer toute une série de choses qui nous rendent, mes amis, prisonniers. Alors la question, suis-je libre? Est-ce que tu es libre? À chacun, chacun de répondre. Deuxième question. Quelle est ma contribution dans la libération de l'être humain, ici à Bléni, mais aussi dans son pays, mais aussi à travers le monde? Mes amis, les causes de l'injustice sont nombreuses. Il y a la pauvreté, il y a des guerres, il y a l'oppression dans les pays, ce qu'on appelle les pays en voie de développement. Il y a la solitude dans des pays qu'on dit riches. La solitude. Hein? La solitude. Qui est terrible. Qui est horrible. Il y a la marginalisation des gens qui sont à la marge de notre société. Il y a la discrimination, hein, des gens qui ne sont pas bien accueillis. Il y a les divisions. Les divisions, souvent, qui sont voulues par les politiques du ventre dans des pays aussi riches. Je voudrais vous donner l'exemple de division. Un jour, j'écoutais un politicien belge, flamand, qui disait ceci. Les flamands et les wallons ont un frigo commun. Un frigo commun. Mais c'est le flamand qui fait des courses. Comment ça signifie? Donc, les flamands et les wallons ont un frigo commun, mais c'est le flamand qui fait des courses. Pendant que le wallon danse, on chante. Vous vous imaginez les conséquences d'une telle réflexion, mes frères et sœurs. Et cela, quand il le dit, c'est pour s'attirer la sympathie de ses amis flamands. Si, mes amis, notre société continue à fonctionner aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui la portent. Et assez souvent, ces hommes et ces femmes qui portent cette société, ce sont les moins riches. Ce sont des gens modestes. Les riches, on les voit moins. Ils sont avec le bien. Donc, si je vous dis ceci, c'est pour vous dire que ne minimisez pas vos efforts. Ne minimisez pas ces gestes que vous posez pour la société. Dieu a agréé ça. Il y a un homme politique français qui s'appelle Georges Clemenceau qui disait ceci. Un pays sans justice sociale, je ne sais pas si vous avez entendu cette phrase-là, est comme une prison. un pays sans justice sociale est comme une prison. Et je voudrais ajouter ceci à partir de tes réflexions. Une église qui n'intègre pas les trois verbes dans ses activités annoncer, apporter, renvoyer, libérer, rate aussi sa vocation, rate aussi sa mission d'être la présence de Jésus-Christ dans le monde. Je dis bien dans le monde, pas une coma blémie, mais dans le monde. Mes frères et sœurs, je voudrais vous raconter aussi une petite histoire. Jésus, vous savez, il a vécu dans le monde, et puis après, il est retourné auprès du Père. Et quand il est retourné auprès de son Père, il a été accueilli par les anges. Et quand il est reçu par ces anges-là, les anges lui ont souhaité la bienvenue, et puis lui ont dit ceci, « Quand tu étais sur la terre, et que tu étais persécuté, et que tu souffrais, et que tu prêchais, nous étions avec toi. Mais combien les Romains ont été méchants avec toi, Jésus. » Et puis à la question, « Mais pourquoi est-ce qu'ils t'ont persécuté ? Hein ? Tu n'as pas construit d'école. » Tu n'as pas reçu d'hôpitaux, tu n'as pas tracé de route. Pourquoi ? Pour tes raisons. Tu viens même, tu n'as pas d'école que tu as laissée là-bas, tu n'as pas d'hôpitaux que tu as laissé là-bas, tu n'as pas de route que tu as laissée là-bas. Pourquoi cette persécution ? Alors la dernière question, c'était de lui dire, mais qu'est-ce que tu laisses là-bas ? Sans hôpital, sans école, sans ONG, sans rien matériellement. Jésus, la réponse, donne une réponse étonnante. Il dit ceci, c'est vrai, je n'ai pas laissé d'hôpitaux, c'est vrai, je n'ai pas laissé d'école, c'est vrai, je n'ai pas créé de ONG, mais j'ai laissé une chose importante. J'ai laissé 12 disciples. Hein? J'ai laissé 12 disciples. Ce sont ces disciples-là qui ont fait connaître Jésus à travers le monde. Hein? Aujourd'hui, vous êtes combien? Comptez combien vous êtes. Vous êtes 12? Plus. Vous pouvez changer le monde. Hein? Vous pouvez changer le monde. Ne doutez pas. Mais soyez convaincus de votre mission. Voilà, mes amis. Vraiment, cette image-là que je voudrais vous laisser, en tant que communauté de Blény, en tant que communauté de notre Église protestante, en tant que chrétien, avec une vocation d'annoncer l'Évangile, d'apporter la guérison, hein, de libérer la mission que nous avons, en sachant que nous dépassons le nombre de 12. Je voudrais revenir sur le texte de l'Épître aux Romains dont je n'ai pas parlé. Au verset 2, l'apôtre Paul écrit ceci, « Ne vous conformez pas au siècle présent. » Vous connaissez ce verset, je pense. « Mais soyez transformés. » Comment ? Par le renouvellement. Hein ? Soyez transformés. Voilà l'une des conditions qui vous permettront justement d'agir comme les disciples. Être transformé, ce verset 2. Donc, ayez ce cheminement-là de transformation. Et pour cela, il faut prier. Ce n'est pas automatique. Il faut prier notre Dieu. Il faut écouter notre Dieu. Rien n'est automatique sur le chemin de la foi chrétienne. Pas du tout. Donc, je termine ici, parce que vous devez aller manger, je suppose. Ouais. Si vous voulez que je continue. Hein? Voilà, pour que vous puissiez m'inviter, je vais terminer quand même. Pour que vous puissiez m'inviter la prochaine fois. Et je voudrais terminer par vous donner 4 verbes cette fois-ci. J'ai parlé de 3. Je voudrais ajouter un 4e verbe. C'est ceci, rechercher la transformation individuelle, donc Romains 12. rechercher la transformation, premier verbe. Deuxième verbe, annoncer la bonne nouvelle, que vous ne soyez pas des chrétiens, des chrétiens, des consommateurs, consommatrices, mais aussi qui produit. Troisième verbe, apporter la guérison à ceux qui ont le cœur brisé. Quatrième verbe, renvoyer libre les opprimés, libérer les autres. Quand je prêche, je termine par le commencement. Le thème, tu recherches la justice, rien que la justice. Le verset 18 de Luc 4, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour apporter la guérison à tous ceux qui ont le cœur brisé, pour renvoyer libre les opprimés. Telle est votre mission, telle est notre mission. Amen.